CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, des données en très gros volume, des feuilles de calcul et des formules, des générateurs de graphiques et pour le lecteur, des interactions. L'équipe aujourd'hui est composée de Myriam Chav, Solarus et Daskritch. Et notre invité du jour, ça m'apprendra. Voilà, Karine Bastien. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. Ouais, super. Bon, tant mieux, c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour et bienvenue, amis auditeurs. Et la seule fois où on le fait en direct, la seule fois, faut que je trébuche pendant le générique. C'est jamais arrivé. Voilà, on a toujours fait les enregistrements dans les conditions du direct d'un coup, sans problème. Et là, je me plante. Donc, pas de souci. C'est donc CPU émission numéro 9. Bonjour, Myriam Chav.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Magnifique.
Enfin, je crois.
Ah, j'espère, oui. Bonjour, Solarus.
Salut.
Et bonjour, moi, donc, c'est Daskritch. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui nous écouteras parce que tu te dis que tu écoutes un programme d'information. Alors qu'en fait, pas du tout. Nous faisons un programme d'informatique. Nuance. Et à ne pas confondre avec un programme informatique. Nous, on se télécharge dans ton oreille et c'est pas un bruit strident, c'est un truc avec des mots. Tu comprends pas, tu laisses comme ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, nous allons parler d'information, comme quoi, et de journalisme dans une branche assez spécialisée, mais actuellement très en vogue. Le data journalisme. Oui, je profite que je suis dans le vrai studio de Radio FMR, je peux faire les effets de voix à la con, c'est génial. Mais journalistiquement, c'est nul, c'est juste des effets de manche, on verra ça tout à l'heure. Pour ceux qui furent attentifs à la release de la semaine dernière, oui, c'est un mot valise qui associe un mot français à un mot anglais, data journalisme. Mais là n'est pas la question, monsieur El Kabash. Reprenons le débat. Le data journalisme, donc, n'est pas que l'alliance entre le Word qui édite les articles et l'Excel qui manipule les données dans le même office, non. Le data journalisme est une nouvelle manière de mettre en scène l'information de façon moins textuelle et plus globale. Globale au sens qu'au lieu de prendre des témoignages épisodiques par micro-trottoirs et best-of des lieux communs les plus affligeants du café du commerce, le data journalisme fait une vraie analyse statistique, voire même parfois une anonymisation de données englobant une population complète. On est bien au-delà du ressenti au doigt mouillé, puisqu'on a une précision manométrique des courants d'air. Avant, le data journalisme consistait surtout à représenter l'information autrement qu'avec des mots. Ainsi apparurent dans la presse les cartes, camembert et autres chartes. Les sources de données sont forcément des sources de référence, fiables ou sinon terrain. Ainsi, les informations statistiques publiques ou de grandes compagnies sont considérées comme de référence. Non mais vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets là. Alors que les informations qui sont recueillies par les volontaires, par des lecteurs et autres, doivent passer par une étape de modération afin de s'enquérir de sa fiabilité. Et d'une manière assez amusante, le data journalisme est une discipline assez ancienne qui est apparue dès que s'est montré le besoin d'afficher des cartes ou de montrer des proportions entre nombres. Comme le disait Napoléon à ses généraux dans sa War Room, tout en planquant sa bouteille de fine, Napoléon, of course, dans son veston, une data vise vaut mieux qu'un rapport de 100 000 signes. Enfin, c'est à peu près ça. Si vous lisez aussi les textes des chroniques et les références de nos émissions sur notre site web cpu.pm, vous avez peut-être remarqué que nous tentons d'éviter de lier vers la Wikipédia afin de mener des recherches d'articles de référence par notre propre chef. Or, il se trouve que l'article « Journalisme de données » de l'encyclopédie collaborative fait référence à une carte établie en 1854 des quartiers miséreux de Londres avec un point noir devant chaque foyer comptant un décès dû au choléra. Avec l'indication des pompes à eau publiques, cette carte montrait directement la corrélation entre les victimes de l'épidémie et les fontaines à eau publiques. Durant cette même décennie, en 1858, on a une représentation en camembert indiquant les proportions entre les différentes causes de décès des soldats de Sa Majesté. Un siècle plus tard, lors des élections présidentielles américaines de 1952, la chaîne CBS réalise un coup de maître en estimant la victoire d'Eisenhower à partir de projections des premiers résultats faits sur ordinateur. Alors attention, projection non pas graphique, hein. Ils n'avaient pas acheté l'appartement du dessus pour mettre la carte graphique, mais lu par un speaker à partir d'une sortie papier d'imprimante. Bon Myriam, comme je fais long, écoute, tu sais, dans les vraies chaînes d'infos, là, comme ça, en fait, ils se balancent. Il y en a un qui balance sa première phrase et l'autre complète par la suite. On peut le faire comme
oui,
ça
oui,
et
oui,
moi, on fait moitié-moitié après pour la météo.
Ouais, enfin, vu la tronche de la météo, je sais pas si ça va le faire. Enfin, je veux bien que tu prennes ma moitié et puis pour le reste, tu te débrouilles, quoi, non ?
D'accord, merci. Mais si les métiers sont désormais passés de l'illustration au crayon et à la plume à celle produite par infographie et au template graphique alimenté des feuilles de calcul, nous avions toujours des présentations surtout statistiques. Le data journalisme, c'est aussi la présentation de données d'une manière interactive. Ce sont des pages web dynamiques, côté navigateur, qui en montrent vraiment l'importance. De Flash aux technologies HTML5, comme le tri de données dans les tableaux dynamiques, puis le graphisme vectoriel en SVG, aux représentations en 3D avec WebGL, et je n'oublie pas le présentateur télé qui se met sur un fond vert et fait mine de toucher une incrustation OpenGL, ou qui touche un gigantesque écran graphique, histoire de montrer que, ouais, sur notre chaîne de télé d'info continue, on a mis plus de moyens bling-bling que les concurrentes, et donc les informations se voient mieux sur le canal 3D. Chaussez vos lunettes et zappez sur votre Samsung. Mais au-delà du talent d'écriture, de présentation et de mise en forme des données, il faut désormais aussi être un réel développeur front-end, c'est-à-dire un spécialiste des navigateurs web. Si des bibliothèques JavaScript facilitent la transformation graphique des données, tel l'excellent d3.js, il faut néanmoins s'y reconnaître un minimum en programmation et aussi en design et en accessibilité pour en faire une présentation attrayante, informative, fonctionnelle et compréhensive. Et donc, il n'est pas étonnant de voir des développeurs étroitement associés, soit dans le quotidien britannique The Guardian, soit en France avec le regretté Citoni. Il y a donc parfois autant de développement logiciel dans un dossier en data journalisme qu'en investigation de fond. L'énorme différence, c'est la pluridisciplinarité de l'exercice. Oui, j'ai un peu du mal aujourd'hui à prononcer. Désormais, il y a aussi l'open data et l'application, enfin, de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 instituant le libre accès des citoyens aux données produites par l'administration. Hey, en 1978. Et on ne parle de l'open data que maintenant. Un tel délai démontre le retard de l'administration à répondre. C'est là aussi une donnée intéressante à mettre en œuvre sur un graphe. Ce qui permet de vérifier, mais aussi de faire apparaître certains sujets qui n'apparaissaient pas jusque-là. Les détails qui ressortent, comme quand on joue sur une photo, en jouant les contrastes, les couleurs, en zoomant, en l'attendant. Solaris, s'il te plaît, tu peux arrêter de jouer les experts Miami avec mon image. Là, ça me déconcentre et je suis tout tordu. Là, je n'arrive plus à lire. Mais de là, il y a aussi le problème de l'information qui est déformée pour correspondre à une conclusion espérée. Même dans le data journalisme, il n'est pas impossible de fausser les faits, puisque très peu de personnes regardent derrière les graphes les données d'origine, en modifiant les échelles des unités, par exemple, ou même, méthode connue depuis les débuts des instituts de sondage, en ayant une question qui n'est pas totalement neutre. A l'inverse, le data journalisme peut réfuter un discours mensonger ou erroné. Mais il devient alors d'autant plus critique d'avoir des sources au-delà de toute critique. Forcément, fact-checking amène inspection d'autant plus inquisitrice. Enfin, du futur immédiat, de même qu'il faut apprendre à lire et à contextualiser comment est reporté un fait d'actualité, il était tout aussi important d'apprendre à lire un graphique. Croise tes sources. Une personne bien informée vaut mieux qu'une aux informations biaisées.
Urgent strings. Here's the news. Here's the fanfare, which seems to say, pay attention, the news is on. And tragic events unfold in the world today.
We'll tell you in a minute.
What great Sporting victories, can you tell us now? It's all there on the website. What tales of magical places happening far away? You really should get out more. Tell us the news of Christians, Muslims, and Jews. Always well-balanced views on the news. Mission accomplished.
Alors, il faut expliquer ce que l'on vient d'entendre. En fait, c'est le générique des infos du soir de la chaîne américaine NBC, dont le générique, en fait, est écrit par, John Williams. Donc, le morceau s'appelle The Mission. Et, en fait, c'est Bill Bailey, qui est un humoriste anglais qui a fait un excellent spectacle qui s'appelle The Remarkable Guide to the Orchestra, où il est accompagné de l'Orchestre Philharmonique du Royaume-Uni. Et où il fait le con avec, etc. Et là, il dit, mais en fait, écoutez ces paroles. En fait, c'est ça que disent le thème du générique du JT. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant. C'est une contextualisation, là aussi, par rapport à l'habillage, en fait, d'une information. Mais on cause. Et Myriam me dit, tu as encore oublié le prénom de notre invité.
Oui, c'est Karen et non pas Karine. Juste pour préciser. Data, chère Data, toi dont on entend parler si souvent, toi qu'on dit grosse et qui pourtant échappe à nos comportements, toi qui es devenu le nouvel âge du numérique, toi qui nais du monde des mathématiques et de la statistique, t'es emparé de celui du grand public, nous avons essayé de comprendre en quoi tes interprétations visuelles peuvent nous éclairer ou nous égarer. Sont-elles des objets de réflexion ou de manipulation ? Notre invitée pour aborder ce sujet passionnant du data journalisme et de la data visualisation est Karen Bastien du studio parisien We Do Data. Et vous, chers auditeurs, peut-être non initiés, ne vous inquiétez pas, nous avons concocté une foule de ressources à retrouver sur le site cpu.pm. Bonjour Karen Bastien, vous êtes data journaliste au studio We Do Data. Oui. Donc vous êtes cofondatrice. C'est un studio qui analyse et interprète les données pour raconter des histoires ou éclairer sur des sujets. Pourriez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les activités de We Do Data ?
We Do Data aujourd'hui propose d'accompagner des médias et beaucoup d'institutions publiques sur la production d'informations visuelles. Ces informations visuelles, elles sont très grandement portées par des chiffres, mais ça peut être également des processus, des comment ça marche, ce qu'on appelait jusqu'ici infographie, de façon plus basique. Et ces productions, elles peuvent prendre beaucoup de formats aujourd'hui, c'est ça qui est riche. Bien sûr, le format interactif, des applications, des sites internet, des formats qu'on dit fixe, essentiellement pour le papier, et puis des formats de photographie, de GIF animé, de vidéo, donc c'est assez varié.
Qu'est-ce qui a changé selon vous l'accès aux data, en fait, cet accès un peu facilité grâce au web? Comment ça a changé le journalisme selon vous, la façon de faire du journalisme?
Ça change la façon de faire le journalisme sur deux plans. Le premier plan, c'est que ces données qui étaient effectivement très mal accessibles jusqu'ici, les journalistes du coup qui ont plutôt en France un profil littéraire s'en approchaient peu. Les journalistes questionnaient peu les chiffres. C'était une matière un petit peu qu'on nous donnait via des rapports, des communiqués de presse et qu'on reprenait in extenso sans trop les interroger. Au contraire de tout le reste de la matière qui faisait le sel de nos enquêtes. Et puis, les robinets à données se sont ouverts. Des données ont été de plus en plus disponibles sur le web, effectivement, mais surtout via le mouvement mondial de l'open data qui vise, qui promeut la libération des données publiques. Et une fois qu'en fait tous ces robinets ont été ouverts, que toutes ces données ont été disponibles, il était de plus en plus difficile aux journalistes de faire comme s'il n'y avait pas de données. Ils avaient de la matière première pour faire des enquêtes, pour croiser des données. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération qui a décidé en fait, de s'emparer de ces données et vraiment de mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est un métier où la technique et les outils sont assez importants, mais en tout cas qui a décidé de s'interroger sur cette grande masse de données et ce qu'elle pouvait raconter du monde.
Au sein de WeDo Data, vous avez une équipe pluridisciplinaire, mais du coup, comment vous faites pour vérifier la fiabilité de vos données ? Est-ce que vous avez des personnes qui analysent ? Comment ça se passe en fait au sein des équipes ?
Effectivement, on a différents profils et des profils qui sont complémentaires, notamment dans l'analyse dont vous parlez. Je garde, moi, la casquette un peu plus éditoriale. C'est-à-dire que quand on se met à enquêter sur un sujet, je vais toujours essayer de garder la question des angles, la question de pourquoi on va passer du temps sur ce fichier toujours en tête. Parce que c'est l'histoire que j'ai, moi, un petit peu toujours au top de mes priorités. Je suis entourée de profils qu'on dit aujourd'hui data scientist. Donc, ce sont des gens qui sont de profils un peu ingénieurs, mathématiciens, statisticiens, qui, eux, vont avoir une technicité sur les statistiques et qui, face à des grandes masses de données, vont pouvoir m'accompagner sur une analyse quantitative très pointue, et de cette analyse quantitative on va voir si moi je vais les confronter au contexte, aux données. Je fais aussi beaucoup confiance aux gens qui travaillent sur le design et le développement, qui sont les deux autres compétences qu'on retrouve dans l'équipe, parce que ce sont des gens qui sont pas forcément au cœur de la donnée au tout début du projet, mais qui vont devoir rendre compte visuellement et interactivement des histoires, et du coup qui sont un peu nos premiers lecteurs. Donc on va dire que le tamis, il se fait un peu à différents niveaux d'un projet data. C'est bien sûr à la source, ça reste quand même un travail journalistique. Donc, on va dire que c'est moi et mon équipe de data journalistes qui vont être un peu quand même en première ligne de la data. Donc, on a exactement les mêmes réflexes que lorsqu'on fait une autre enquête. Quelle est la source de cette donnée ? Est-ce qu'elle est fiable ? De quand date la donnée ? Comment elle a été récupérée ? À quel moment ? Par quel procédé ? Sur quel périmètre ? Enfin voilà, on questionne les choses. Et puis après, effectivement, on a un accompagnement parfois face à des grosses bases de profils plus techniques.
Vous avez parlé de design et je pensais au travail de Stéphanie Posavec et Georgia Lupi. Je ne sais pas si vous connaissez leurs échanges Dear Data. Elles ont fait un peu de la data un espace d'expression poétique et artistique. C'est un très chouette travail. À votre avis, quelle place tient l'esthétique dans le métier ?
Il tient une place très importante. Parce que ce que vont voir les gens en premier, ce n'est pas votre enquête. Ce n'est pas les chiffres, c'est les formes, les couleurs, les effets visuels. C'est l'accroche visuelle, mais tout le travail va être que cette accroche visuelle, elle soit au service du fond. Si vous avez juste une pure accroche visuelle et derrière il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de data, tout ça n'était qu'un effet waouh, on a perdu. Et puis je pense que le data journalisme se perdrait beaucoup à ne faire ou à ne compter que sur le design pour sauver ses histoires, vous voyez. Donc... le travail permanent, en tout cas dans notre équipe, c'est toujours cette espèce d'équilibre fond et forme qu'on cherche en permanence en essayant de mettre l'esthétique au service de l'histoire, de trouver la bonne interactivité, la bonne icono qui va vraiment porter les chiffres et porter les datas. Et c'est vrai que vous faisiez référence au travail de Stéphanie. Il y a aussi, moi, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est tous les ans le travail de Nicolas Felton qui fait un rapport annuel sur lui-même. Mmh. Et je trouve vraiment très intéressant toutes ces démarches de designers qui s'emparent de leurs données personnelles pour en rendre compte de façon visuelle. Et notamment, il y a un travail de Nicolas Felton qui a retracé toute la vie de son père qu'il a peu connu à travers en fait toutes les datas qu'il a pu retrouver sur son père, que ce soit les bulletins de notes scolaires, les villes où il a vécu, les factures qu'il a payées. Enfin, dès qu'il trouvait de la donnée sur son père, il en a fait un très bel ouvrage. Ça, c'est des démarches de designers que je respecte beaucoup et qui sont très inspirants pour nous. Après, c'est juste voilà, de toujours garder en tête cet équilibre fond et forme qui, je pense, est très structurant de notre métier.
Donc finalement, c'est rassurant, la data, c'est pas juste un traitement d'une information, mais elle peut être poétique, elle peut être artistique, elle est narrative, elle est vivante en fait finalement. Quelle est la data vise ou un travail au-delà de Nicolas Felton qui vous a vraiment inspiré ou vous dans votre quotidien, une réalisation qui vous a surprise ?
Moi, la personne qui, de toute façon, reste assez fondatrice de ma démarche, alors elle est plus du côté journaliste, mais il a mis le design au service des histoires. Pour moi, ça reste David McCandless, parce que son livre, donc Information is Beautiful, qui est également son site internet et qui a été traduit en français par DataVision, est vraiment le livre qui a montré qu'on pouvait parler de tous les sujets en data et en design. Et il a fait un peu exploser les frontières qu'on avait jusqu'ici, et c'est pour ça qu'on utilisait aussi ce terme un peu plus restrictif d'infographie. En gros, l'infographie restait cantonnée à des thématiques économiques, à des thématiques scientifiques. En gros, voilà, c'était visiblement les deux seuls secteurs qui émettaient de la data et sur lesquels on pouvait produire des graphiques. Et dans son livre DataVision, vous avez 50 histoires de maladies, de sociologie, de société, de géopolitique. Voilà. Il montre qu'en fait, n'importe quel sujet peut aujourd'hui, parce qu'on est aussi dans un monde qui produit énormément de données sur tout, on peut raconter voilà, presque sur tous les sujets des choses en data. Et je trouve que c'est le fait d'avoir aboli ces frontières où on restait un petit peu trop cloisonné, ça a vraiment été... il est clair que ce livre et David McCandless ont vraiment été fondateurs de ce nouveau mouvement et de ce nouveau terme d'ailleurs de data visualisation qui a un petit peu comme un... C'est vrai que ça... C'est peut-être un peu trop un buzzword aujourd'hui, mais ça reste un mot qui, pour moi, reste fondateur d'une nouvelle ère de l'information visuelle.
Oui, c'est vrai que David McCandless, à travers ce bouquin que j'ai aussi, et dont je suis fan également, j'avais vu une vidéo TED où il soulevait justement, et c'est ce qui m'avait intéressé, et je vais vous poser la question, la question de l'éthique en fait. Il montrait comment les données, de la façon dont on allait les présenter visuellement, pouvaient être interprétées par le public d'une façon ou d'une autre. Et comment aussi les données, comme vous disiez, pouvaient servir une histoire et alerter le public sur un sujet sociétal, un sujet écologique, ou voilà.
Je pense que sur les données, il faut avoir, pour moi, le même œil critique que vous pouvez en avoir face à une image. Ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres que vous allez proposer en visualisation, c'est d'une certaine façon votre vision du monde. C'est pour ça que pour moi, finalement, le data journalisme, c'est vraiment du journalisme. On a toujours parlé d'une objectivité du journalisme et on l'a beaucoup défendu en France. Je dois avouer que ce n'est pas que je n'y crois pas, mais je suis assez pragmatique. Et ce que je vois, c'est que prenez une manifestation, par exemple. Envoyez 10 journalistes sur la manifestation. Et bien, vous aurez bien 10 papiers différents. Ça montre bien que le journalisme, ça reste, de toute façon, tellement lié à l'humain qui l'écrit, que même s'il recueille les mêmes informations, la façon dont il va vous les transmettre, ça va être en partie sa vision de l'événement. Et la data, sous ses couverts scientifiques, les données que, par exemple, vous pouvez donner la même base de données à 5 personnes différentes et elles vont produire 5 types de visualisations différentes. Donc là aussi, c'est bien la même logique, c'est que c'est une certaine vision du monde, une certaine sélection d'informations, une certaine représentation visuelle qu'on va choisir de vous donner à voir. Et je pense que là-dessus, il faut que le lecteur, comme pour tout article de presse, comme pour toute image, développe un sens critique. On dit beaucoup qu'en France, il faut absolument qu'on redéveloppe toute une culture de l'image, que les enfants acquièrent un œil critique sur le monde de la publicité, des films, etc., qu'ils voient autour d'eux. Et je trouve qu'il faudrait aussi beaucoup poser la question du chiffre et d'un œil critique sur les données dès le plus jeune âge, parce que je pense qu'on va grandir, surtout ceux qui viennent dans un monde où il y aura de plus en plus de chiffres, et c'est important que tout le monde ait un œil critique sur ces chiffres. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu philosophique ce que je dis, mais je pense que c'est hyper important de dire qu'à chaque fois que vous voyez quelque chose, ça reste une vision de la personne qui l'a produite.
Vous avez anticipé sur la question future. Non, mais pas de souci. J'allais vous demander comment vous voyez l'évolution et la pertinence de cette discipline et les enjeux futurs. Mais là, ce que vous avez dit auparavant, c'est tout à fait. C'est tout à fait pertinent. Et j'avais une dernière question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous passionne et qui vous anime dans votre métier ?
Je dirais en tête. J'arrive pas à les départager. Alors, je vous en dis deux. D'abord, le travail en équipe. Quand j'ai fait mon école de journalisme, bien sûr, j'ai appris à travailler en équipe parce qu'on nous apprend à travailler comme une mini-rédaction et travailler, Alors, à la fois, on travaille les uns avec les autres parce qu'on participe à produire des textes, des photos, des vidéos pour un même média. Mais en même temps, je me rendais compte qu'on travaillait quand même tout seul, chacun sur son papier. C'était l'addition de tous nos papiers qui allait donner un journal, en fait. Et moi, j'étais assez frustrée de ça. Et aujourd'hui, ce que je trouve vraiment fort avec la data, c'est que je ne peux plus être la seule auteure de l'enquête. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, sans mes designers, sans mes développeurs, sans les statisticiens, finalement, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Donc, ça demande une certaine humilité, je pense, mais c'est surtout le sens du collectif et de se dire que l'enquête, elle sera plus forte parce qu'elle sera la conjonction de tous nos cerveaux ensemble. Donc ça, je m'y retrouve vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. C'est un nouvel état d'esprit pour le journalisme, l'aspect collectif. Et puis la deuxième chose, c'est je viens d'une famille où il y avait très peu d'écrits, très peu de livres en fait. Et donc ma culture, elle s'est faite beaucoup moi par les photos, la télévision, le cinéma, beaucoup par les images. Et du coup, j'ai beaucoup appris du monde en fait par les images que je regardais pendant des heures, ou les livres d'images, beaucoup la BD aussi. Et du coup, j'ai un peu, je pense, avec cette nouvelle forme de journalisme plus pédagogiquement visuel, l'impression, je pense, de perpétuer aussi cette tradition aussi des gens qui sont peut-être moins attirés par l'écrit, mais à qui on peut raconter plein d'histoires, on peut expliquer le monde avec des images. Voilà, maintenant elles sont interactives, elles ont des graphiques, etc. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est une sorte de perpétuation de mon passé que je ne qualifierais pas d'illettré, il ne faut pas non plus exagérer, mais où les lettres n'étaient pas très présentes.
C'est une très belle inspiration. Et c'est vrai que le premier contact de l'enfant avec le monde extérieur et, entre guillemets, le savoir, c'est l'image, finalement. Quand il ne sait pas lire, c'est l'image qui va le connecter au monde. Bon, Karen Bastien, merci beaucoup de votre participation.
De rien, de rien. Merci d'être curieux et curieuse.
Non, merci à vous de nous rendre aussi curieux avec les réalisations que vous faites. Donc on peut retrouver We Do Data sur le site internet, c'est ça? Et oui, par ailleurs, j'avais une dernière question parce que je me suis abonnée sur 365data.fr.
Donc, oh là, ça sent le SAV.
Non, pas
je
du tout.
Je ne les reçois pas.
Non.
Ah. Vous les recevez pas?
Si, mais pas du tout, j'avais pas de critique sur... Non, je me posais la question, en fait, comment vous sélectionnez vos datavis par jour ?
Alors ça, c'est vraiment un projet un peu atypique, hein, parce que c'est un projet d'entreprise. C'est, on le fait pour nous, hein, on ne l'a pas vendu, il est à personne, il est qu'à nous. C'est un peu une sorte de jeu de l'esprit entre nous, entre les designers, les journalistes, de se dire, tiens, c'est marrant, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une journée de tout, tous les jours, quoi. Et on a voulu rire un petit peu de ça et s'amuser avec la data. Notre souhait, c'était surtout de ne pas faire ça à chaud. C'est-à-dire de prendre le premier chiffre qui passe parce que c'est le matin de la journée de bidule et voilà. Donc en fait tout ce que vous voyez est le résultat d'un très long travail en amont. On a plusieurs mois d'avance en fait. Là actuellement pour tout vous dire, pour nous le projet est terminé puisque toutes les images sont prêtes jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait c'est un travail où on prend le sujet, on essaye de trouver un petit pas de côté, ensuite on passe beaucoup de temps sur les sources, à trouver la bonne comparaison. Voilà, c'est un mini-travail, c'est pas une enquête journalistique. Hein. Mais voilà, c'est en tout cas une très bonne gymnastique de l'esprit data, voilà, pour trouver ce petit pas de côté, ce petit chiffre qui va faire la différence. Et puis après, pour nos designers, c'était surtout un très grand plaisir de travailler avec un style beaucoup plus illustré qu'on nous demande peu, hein, finalement, parce que tout le monde veut un petit peu du David McCandless, vous voyez, des formes très géométriques, très pas du tout froides, mais très, voilà, avec une esthétique très, très épurée. Mmh. Et voilà, j'ai des designers qui aiment dessiner, et du coup, ils voulaient réinjecter un petit peu d'images illustrées dans la data, et donc voilà, ils ont trouvé un ton qui leur plaît, et voilà, c'était vraiment un exercice d'équipe qui dure depuis quasiment 365 jours, voilà, et qui donnera lieu à un livre puisqu'il y a un très gros éditeur qui vient de nous l'acheter, et on est très heureux qu'un projet web comme ça ait une deuxième vie sur le papier. Donc vous pourrez l'acheter à Noël prochain. Voilà, et l'offrir à tous vos amis.
C'est génial, c'est un peu la version du futur du calendrier qu'a ma grand-mère dans sa cuisine, vous savez, les calendriers qu'on enlève chaque jour et tout ça.
Exactement.
Et on a plaisir à ouvrir et à regarder à chaque fois la nouvelle information. Merci beaucoup, Karen Bastien.
De rien.
Hell.
Power, Nude as the News. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, release numéro 9, est consacrée au data journalisme. Et exceptionnellement, donc nous sommes en direct et en différé sur Radio FMR. Ouais, retour vers le futur, tout ça, etc. Je vais pas m'en sortir du tout. Je vais un jour péter un plomb à réaliser cette émission. Ah bah tiens, Marty, direction le futur. Allons voir comment se passe éducation supérieure.
Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
Chers élèves, le cours d'aujourd'hui portera sur les données. En effet, nous historiens, nous basons sur les données. Nous rassemblons les données, analysons son auteur et les remettons dans son contexte. Nous les croisons avec d'autres données d'autres sources pour obtenir une histoire du monde à un moment donné. Sans jamais oublier que l'interprétation finale de ces données dépend de l'œil de celui qui les traite.
Pas si vite, je suis qu'aux 6e données.
Les premières données que nous avons de l'être humain datent de la préhistoire. Ce sont notamment les peintures rupestres et les objets en silex grossièrement taillés. Puis vient la première révolution du langage, l'écriture. Ainsi, les premiers parchemins firent leur apparition. En babylonien, en assyrien, araméen ou hiéroglyphe, l'homme se mettait à écrire et par là même produisit ses premières données pérennes dans le temps. Nous pouvons ainsi retracer le quotidien de certaines populations, leurs récoltes, leur système hiérarchique et surtout leurs mythes religieux. Avec le développement des manuscrits et des métiers de scribe ou de copiste, on vit l'essor des bibliothèques et des archives comme lieu de stockage privilégié des données. La deuxième révolution du langage fut l'invention de l'imprimerie. Avec elle, les données imprimées purent facilement être dupliquées et circulées à l'échelle des continents en un temps record. L'archivage fut rempli du plus facile, les bibliothèques devenant de plus en plus grandes et fournies en ouvrages et données du monde entier. La troisième révolution fut l'invention de l'informatique et d'Internet. Grâce au traitement de texte, l'écrit se fit électronique. Et grâce à Internet, ces textes purent circuler dans le monde entier à une vitesse quasi instantanée. Mais surtout, l'informatique est un monde de données. Tout ce qui existe est une donnée, une suite de 0 et de 1 qui ont forcément un sens. Ainsi, les tableurs et les bases de données permirent de stocker des données dans une logique humaine et de permettre leur traitement par une logique informatique. La puissance brute de calcul des ordinateurs s'ouvrait au monde humain. C'est ainsi que le 21e siècle numérisa toutes ces données. Revenus, dépenses, courriers, journaux, ressources naturelles, cartes du monde, tout devait rentrer dans la machine, tout devait exister sous forme de données. C'est ainsi que tout fut quantifié, comparé, stocké, y compris des notions comme l'amour ou le bonheur. Ainsi, le Bhoutan développa le bonheur intérieur brut, une donnée qui devait permettre de mesurer le bonheur de ses habitants. Ce pays obtenant d'ailleurs une valeur élevée malgré le chômage et la corruption grandissante à cette époque. Mais nous l'avons dit en introduction, toute donnée doit être analysée à la lumière de son émetteur, remise dans son contexte et croisée avec d'autres données. Les dérives de l'usage des données ont commencé à se voir dans les entreprises, quand elles ont essayé d'objectifier le travail et ont demandé à tous leurs services internes de produire et de remonter des données afin de calculer la productivité. Ainsi, les sociétés commerciales n'étaient plus dirigées par des directions, mais par des statisticiens accrochés à leur tableau croisé Excel, travaillant sur des données non fiables car produites par un émetteur trop concerné, un salarié ou un cadre craignant de perdre sa place, des données sorties de leur contexte car remontées trop haut dans la hiérarchie, et impossible à croiser car appartenant à un univers clos en silo. Quant à l'œil de celui qui traite les données, c'est bien sûr celui du DRH, toujours à l'affût de pouvoir rationaliser les effectifs de la société, comprenez, mettre en difficulté aussi bien ceux qui partent que ceux qui restent. Car comme disait le grand philosophe français Bernard-Henri Lévy, la raison du truqueur est toujours la meilleure. C'est à cette époque, au début du XXIe siècle, que naquit une pratique du data journaliste, le fact-checking. À grand renfort de données, certains journalistes se mirent en tête de jouer les redresseurs de tort en politique. Mais s'il est facile de rappeler à un élu politique ses promesses de campagne tenues ou non, le reste est moins évident. Certes, il y a besoin de chiffres pour gouverner. C'est ainsi que toutes les facettes de notre vie sont quantifiées, qualifiées, questionnées au travers de sondages. Mais ces données sont imparfaites, car leurs émetteurs autant que leur contexte sont discutables, tout autant que la possibilité ou l'impossibilité de les croiser, ou encore l'œil de celui qui les analyse. Prenons par exemple les chiffres du chômage. Ils sont émis par Pôle emploi, qui a pour mission d'avoir le moins de chômeurs possible, et qui a la capacité d'accepter ou de résilier ces chômeurs. Dès lors, comment se fier à ces chiffres sans les croiser avec ceux des chômeurs non inscrits ou encore celui des emplois précaires ? Dès lors, il fut monnaie courante de voir les politiques contester les fact-checking avec plus ou moins de brio et des arguments plus ou moins bons. Car la politique reste ce qu'elle est, une divergence d'opinion sur la manière de diriger un pays, et s'il suffisait d'analyser des données pour vérifier la probité d'un gouvernement, nous serions déjà gouvernés par des ordinateurs.
Le générique d'ouverture du journal télévisé de la chaîne publique australienne ABC, et la chaîne australienne en question pour son anniversaire a demandé à des groupes locaux australiens, dans tous les genres, de le remixer. Et là, donc, c'est le groupe de drum and bass Pendulum qui en a fait un remix nettement plus dansant. Je ne sais pas si après c'est génial pour les débats politiques. Mais de suite, donc, après les informations, bien évidemment, nous avons notre service météo.
La météo d'Internet.
Très belle Myriam, allez-y sur le fond vert et faites votre présentation.
Recette du data journalist en feuille de chou sauce financière. Prenez une paire de data journalistes pas trop mûrs, de la catégorie geek ou nerd. Isolez-les afin de ne leur faire subir aucune influence extérieure. Chemisez vigoureusement avec un ordinateur que vous aurez préalablement lié à un internet et protégé avec 250 g de firewall NSA proof. Faites revenir un lanceur d'alerte de la variété Snowden ou Brother. Hors saison, on peut le remplacer. On peut le Snowden, bien sûr.
On peut remplacer le Snowden, oui.
Non, mais. Par une série d'appels de marché. Un lot de documents comptables open data, voire en période de vache maigre, de rapport de la Cour des comptes. Voilà. Déglacez doucement cet appareil jusqu'à ce que le fond commence à accrocher et les conversations prendre un léger ton aigre-doux. Attention, prenez garde à ne choisir que les données du jour. Évitez si possible les produits vendus sous feuille Excel ou emballage Imadlahoud, surtout si la traçabilité Clearstream n'est pas garantie. Faites plancher les deux journalistes durant 3 à 6 mois. Mettez en réserve 2 ou 3 gras de papier en chambre froide, car parfois certains morceaux supportent mal la pression et s'étiolent, nécessitant un remplacement immédiat. l'apport de data journalistes frais en cours de préparation n'est jamais néfaste au résultat final. Accompagné d'un zeste d'analyste financier et saupoudré généreusement de développeurs C de l'espèce SGBD. C'est généralement ce qui donnera à votre journaliste en feuille de chou un arrière-goût très prononcé d'enquête objective. Faites très attention à surveiller les débordements. À la moindre fuite, le travail du data journaliste s'évente et n'a plus de goût. À ce stade, épluchez soigneusement les données. Commencez à dresser quelques camemberts, nuages de points, histogrammes 3D ou toute autre récolte infographique de saison. Évitez d'ajouter la moindre donnée en conserve, si ce n'est pour garnir le fond de référence. Un bon data journaliste en feuille de chou exige des produits frais. À ce stade, instinctivement, le journaliste se met à pondre en abondance. C'est également à ce moment précis que se développent les pressions et montées en température, d'autant plus importantes que vous mettrez du temps à mettre sous presse. Dès que les papiers sont prêts, diffusez et servez chaud. À ce stade, le stade est toujours très important dans le data journalisme en feuille de chou. Le data journaliste peut prendre un peu de repos, pendant que les pas data et pas trop journalistes reprennent les articles sur d'autres médias. Le data journaliste en feuille de chou se consomme exclusivement dans la semaine. Passé la DLC, il prend un goût de réchauffé. Si votre éditeur imprimeur est en rupture de stock, vous pourrez toujours surprendre vos invités avec un plat très simple à réaliser, le journaliste de terrain.
Bonjour, je suis JP Nouillou. Je vais vous donner la recette de journalisme de terrain. Alors vous choisissez un Kessel de l'année, un Klondike, un Le 4 goûtu, croquant, voire une paire Bernstein Ward, un Cabu ou si possible un Alfred Baudard. Alors vous l'immergez durant quelques mois sur le terrain. On notera que le journaliste de terrain coûte généralement moins cher en informatique et abonnement internet, et plus cher en notes de frais, magnétophone, carnet à souche, stylo bille et télécopie. Bon, ça reste souvent un plat économique, roborative, capable de fournir donc une nourriture bien costaud et qui se conserve bien. Spontanément, le journaliste de terrain va se mettre à pondre, d'autant plus abondamment que la température du terrain sera élevée. Bon, vous agrémentez de quelques clichés de photographes, généralement de la même espèce que le journaliste de terrain. Vous servez en chaud, en édition du soir ou du matin, vous augmentez le tirage selon la demande des convives. Comme vous pouvez le constater, la recette est bien plus simple et rapide en cas de lectorat imprévu. Bon, il faut toutefois ne pas oublier que le journaliste de terrain est parfois périssable, qui n'est pas étanche aux balles ni résistant aux coups de matraque, autant d'altérations moins connues dans le domaine du data journalisme. Certains critiques gastronomiques préfèrent d'ailleurs le goût du terrain aux senteurs des datas. L'un d'eux, à propos d'un baudard servi à température indochinoise, estimé « Dans ces papiers, rien n'est exact, mais tout est vrai ».
Tout est vrai ou tout est frais ?
Tout est vrai. Une erreur dans les dosages pourrait donner le résultat inverse dans la confection d'un data journaliste en feuille de chou. Alors tout à l'heure, Bill Bailey avait fait un très bel hommage au générique de NBC. Là, cette fois-ci, il se fout de la gueule du journal de la chaîne privée anglaise. Ça, c'est le générique qu'on écoute, tel qu'il était diffusé entre 53 et 78. A massive car bomb exploded in Baghdad today.
Kyrgyzstan has gone nuclear. Bird flu is affecting all of us. It looks like we'll all be dead in 3 years. The entire system of money has collapsed. Governments warn of a return to a shiny bead-based bartering system. America has begun bombing Iran. The Third World War is imminent. We're all going to die.
Et dites-vous que cette musique n'est pas complètement ridicule quand on sait que le journal de la plus importante chaîne européenne, qui est d'ailleurs la chaîne numéro 1 en France, et composé à la musique de la bande originale d'un célèbre film d'horreur. Vous chercherez. Ceci dit, on est sur la fin, même si on est très en avance. Et ça fait bizarre, du coup, de le faire en direct, à nouveau, par un final. Et bon, que voulez-vous ? Nécessité fait force de passer l'information en breaking news, donc allez, hop, on y va !
J'ai glissé, cher.
C'était CPU, le programme carré petit utile qui normalement est tous les jeudis à 11h. Et pour cette release, l'équipe était composée de Myriam Chave, de Chief Database Officer, Marco Lanier, Chief Cartographist Officer, Solarus, Chief Geometric Officer, Daskritch, Chief Camemberist Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de Booster FM et de Radio FMR. Et l'intégralité de ce programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Et en plus, vous pouvez commenter et partager, la licence est ouverte. Prochaine release, Liberté sous surveillance globale. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain sur cette antenne à 11h. Et si vous écoutez FMR sur analogique jeudi matin, et ben il est presque midi, nous cédons la place à Monique Blanquet. Qui est venu nous dire bonjour, bise. Et si vous nous écoutez mercredi soir à 18h38, sachez qu'on est on enregistre en direct, c'est pas fini.
On est là, venez nous voir.
Puisque donc il y a un vernissage en fait en ce moment pour l'exposition photocopie, on va recevoir tout de dans quelques minutes donc les auteurs en question. Donc c'est pour ça en fait qu'on est descendu, on a changé de studio puisque tout simplement ça allait être très bruyant et ça allait pendant les répétitions. Et donc on fait un petit décompte, voilà, extrait le temps de terminer l'heure pour Monique, comme ça ils peuvent s'installer tranquillement. Et nous ça nous laisse le temps de les envoyer. J'étais dans les génériques de chaînes de télé. Celle-ci, c'est quand même une de mes préférées.